Vous savez qu'à deux reprises, nous avons assisté à des consécrations d'églises, dans l'église à Tchélier, dans l'église, dans le monastère où vivait Saint Justin, Père Justin Popovitch, et l'autre dimanche au monastère de Solan. Je ne vais pas vous faire la description des gens qui sont venus, des évêques, etc. Je voudrais vraiment vous faire la mystagogie de l'office lui-même. C'est un office à la fois simple et à la fois complexe. Il est simple parce qu'il se déroule tout naturellement, mais il est complexe parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, et parce qu'il fait appel dans sa simplicité, je parle de simplicité des textes notamment, il fait appel à une multitude d'allusions à l'Ancien et au Nouveau Testament, et si on voulait aller plus loin, même de la vie des religions, même païennes, on pourrait aller jusque-là. Je vais éviter de le faire aujourd'hui, qui manifeste la transfiguration de toutes les religions par la foi et la pratique de l'Ancien Testament chez les Hébreux et du Nouveau Testament chez nous à la suite des Hébreux. Rappelez-vous, je ne parle que pour l'Ancien Testament pour l'instant, rappelez-vous de la vision de Jacob dont vous avez une représentation iconographique à gauche, à l'entrée, à l'extérieur, à l'entrée de notre église. Jacob s'est endormi la tête sur une pierre, n'est-ce pas ? Il fait un songe et il voit une échelle qui est posée sur le ciel et des anges monter et descendre. C'était une préfiguration, une annonce, une prophétie de l'incarnation. L'échelle, c'est celui qui fait le lien, c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Donc c'est le Christ, lequel est à la fois Dieu et à la fois homme. En ce sens-là, il est l'échelle. Les anges qui montent et qui descendent, ce sont les hommes qui, en Christ, cheminent vers Dieu, vers le ciel, et qui, fort de sa force, peuvent accéder au royaume des cieux, c'est-à-dire à l'illumination vitale, qui est la réception de la vraie vie, qui est la vie divine. Donc Jacob, après sa vision, le livre de la Genèse dit qu'il prit la pierre qui était sous sa tête et l'adressa comme une stèle loignée d'huile à son sommet. Rappelez-vous aussi, vous voyez toutes les allusions, toutes les figures, les préfigurations. Déjà, nous trouvons le thème de la pierre. La pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, c'est celle qu'il prend pour en faire un autel, comme un monument, comme un mémorial, comme témoignage et comme souvenir pour l'éternité de ce qu'il a vu. Et rappelez-vous que à Césarée de Philippe, le Christ demande à ses apôtres: pour vous, qui suis-je devant le rocher, devant la falaise de Césarée de Philippe, pour vous, qui je suis ? Saint-Pierre répond: tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Christ lui répond: bravo, tu as répondu, c'est l'Esprit Saint qui t'a soufflé, qui a inspiré cela. Et sur cette pierre de la foi, que je suis la pierre d'angle, sur cette pierre-là, je bâtis mon église. Rappelez-vous aussi la construction de la tente du témoignage et de l'arche d'alliance par Moïse sur les consignes de Dieu, sur les ordres de Dieu, afin de faire participer le peuple à la vision et à l'expérience de l'union que Moïse avait eue avec Dieu sur le mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'on consacre une église de manière à ce qu'elle soit qu'on l'a construit déjà d'une certaine manière avec une certaine architecture souple, c'est-à-dire modifiable, mais avec des principes iconographiques dans la structure de l'Église, de manière à ce qu'elle soit un signe, un monument, un mémorial de la présence de Dieu et de la vision de la gloire de Dieu que l'Église a eue, notamment quand le Christ s'est transfiguré sur le mont Tabor, notamment au moment de sa résurrection, par toutes les théophanies auxquelles les hommes ont assisté, par toute la révélation que l'Église a reçue après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est tout cela qu'il nous est donné de voir et auquel il nous est donné de participer par la construction et par la consécration, par la dédicace de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a cet office-là. Rappelez-vous aussi la dédicace du temple de Salomon. Elle est recherchée dans les Saintes Écritures pour la dédicace, pour la consécration du temple qu'il avait construit, qui reprenait les formes fondamentales de la tente qu'avait construite Moïse dans le désert, qui était le temple itinérant, le temple des nomades. Et maintenant, Salomon construit un temple de sédentaires, donc une église. Pour cette consécration-là, il faisait offrir des holocaustes, des sacrifices. Eh bien, pour nous, ce ne sont plus des sacrifices figuratifs, ce ne sont plus des prophéties que nous consacrons, que nous immolons sur les autels de nos églises consacrées, mais c'est la réalité. Salomon offrait des holocaustes qui annonçaient le véritable sacrifice du véritable agneau qui est le Christ, immolé et ressuscité. Et nous, a posteriori, c'est lui encore que nous vénérons, que nous adorons et que nous n'immolons pas de nouveau, mais participons à cette immolation en nous immolant avec lui et ressuscitons avec lui sur l'autel de notre Église. Je devrais dire en même temps qu'il y a une assimilation de toutes les Églises en une seule. Il n'y a qu'une Église, l'Église du Christ, le corps du Christ. Et toutes les Églises, tous les autels du monde entier sont l'unique autel sur lequel le Christ s'est immolé et s'offre de nouveau aux hommes. Et c'est sur cet autel unique que l'on peut accéder en nous élevant, nous aussi, avec lui, en lui, sur la croix, que nous pouvons accéder à la résurrection, mais la résurrection n'est encore qu'une étape en attendant la glorification, qui aboutit du moins à la glorification totale de la personne par son union à Dieu, ce qui est ce qu'on appelle dans notre langage courant la sainteté, n'est-ce pas? Il faut savoir tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup résumé malgré les apparences. Il faut savoir tout ça pour comprendre comment, lorsqu'on consacre une église, on inclut dans l'autel, je vais vous expliquer comment, on y inclut des reliques. Dans l'église ancienne, les églises étaient édifiées sur le corps, sur le tombeau des martyrs. Les martyrs dans l'église ancienne étaient les seuls saints, les seules personnes dont on était sûr qu'ils avaient donné toute leur vie jusqu'à leur mort, librement, volontairement, pour la gloire de Dieu. Et dans cette force qu'ils avaient, l'Église était témoin de la présence, de la force du Saint-Esprit qui leur donnait le pouvoir de vaincre avec le Christ et avec lui, donc de ressusciter. Et c'est pour cela que on bâtissait nos églises sur les tombeaux des martyrs. À tel point que même maintenant, un prêtre est dans l'impossibilité de célébrer une liturgie s'il n'a pas un autel consacré, ou s'il n'a pas un antimension, on y reviendra après, un linge qui a été consacré en même temps que l'autel, qui est un autel portatif en quelque sorte, qui peut plier et mettre dans les soutes de son dans les fontes de son cheval quand il ou dans la boîte à gants de sa voiture quand il se déplace. Et mais en cas de nécessité, on pourrait très bien, et il est arrivé dans l'histoire, qu'on célèbre la liturgie sur la poitrine d'un martyr. Et s'il n'y a pas de martyr, on peut même célébrer la liturgie sur la poitrine d'un homme. Parce qu'il est martyr en puissance, il est associé au Christ. C'est des cas extrêmes, évidemment. Mais c'est montrer l'importance de célébrer la liturgie sur le corps du Christ lui-même. À travers une personne morte et ressuscitée, comme dans le cas des martyrs, ou même d'une personne éventuellement vivante, très exceptionnellement. Et c'est la raison donc pour laquelle, dans l'autel, c'est-à-dire au centre de l'Église, au cœur de l'Église, on va enterrer, on va sceller les reliques de trois martyrs différents. L'office maintenant dans lequel nous rentrons commence avec les vêpres dans la nouvelle église. Sur l'autel non encore consacré, même peut-être sur une crédence sur le côté, non je crois sur l'autel quand même, et il y a les trois reliques, qui sont des petites reliques évidemment, des martyrs qui sont déposées là. Et à la fin des vêpres, l'évêque en tête, le clergé et les fidèles prennent ces reliques et les emmènent dans une église secondaire ou l'église ancienne, dans les cas que l'on a vécu précédemment, de manière à y déposer les reliques en attente de toute la nuit. Et après que les reliques étaient enlevées de la future église, si je peux l'appeler comme ça, celle-ci est complètement dépouillée de tout ce qui est à l'intérieur. On enlève toutes les lampes, toutes les nappes, tous les sièges, on enlève tout. L'église doit être nue, elle est vide. C'est le tombeau vide. Le Christ est mort, et à sa résurrection, les femmes ont vu un tombeau vide. L'église est fermée toute la nuit quand elle était vidée. Elle est fermée toute la nuit comme quand le Christ était descendu dans le tombeau. On ne scelle pas les portes, mais elles sont fermées à clé. J'en sais quelque chose parce que j'avais besoin d'aller chercher quelque chose. Je me suis buté à la porte, j'en ai essayé une deuxième, elle était encore fermée à clé, la troisième aussi. Et tout est enlevé parce que tout ce qui servira après dans l'église doit être consacré. Or, comme ça n'a pas été consacré, on enlève tout. Et on amènera, je vous le dirai après, les choses petit à petit au fur et à mesure qu'elles seront consacrées ou bénies. Donc les reliques sont déposées dans la chapelle, dans une chapelle secondaire, dans l'ancienne chapelle pour toute la nuit. Comme le Christ au tombeau, comme les martyrs à leur mort. Le lendemain matin, après l'orthros, après les matines, l'évêque et le clergé, l'évêque ou les évêques, avec les célébrants, le clergé, vont dans cette église-là et s'habillent solennellement, revêtent solennellement leur revêtement. Ça montre la solennité, l'importance et la manifestation de la gloire rendue visible aux yeux des hommes de ce qui va se passer. Et avant la procession proprement dite, on dépose sur un discos, c'est une patène, n'ayez pas peur, je vais vous faire de l'équilibre. On dépose D'abord, dans un petit reliquaire, qui est une boîte qui peut être comme ça, un peu plus belle généralement, mais enfin, on dépose les trois reliques qui ont été gardées toute la nuit. Sur ces reliques-là, on verse le Saint Miron, le Miron avec lequel on fait la chrismation, Miron qui a été consacré par le patriarche de chaque église, quand il n'y a plus de Miron dans les différentes paroisses et monastères. Donc une fois, de temps en temps simplement, une fois tous les 10 ans. On verse donc de ce Saint Miron sur les reliques. Après quoi, on met le reliquaire sur un discos. Le discos, c'est la patène, vous savez, celui, la patène, le discos qui est utilisé pour la grande entrée pendant la liturgie, ce qui montre bien l'assimilation entre les martyrs dont on a la relique et le corps du Christ qui sera porté en procession pendant la grande entrée pour y être consacré pendant la liturgie. Et l'évêque sort de l'église et tout le monde part en procession pour faire 3 fois le tour de la nouvelle église. On fait le tour de la nouvelle église et à chaque fin d'un tour, on fait le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Parce que c'est le mouvement universel. Comme quoi, il y a un rapport entre nos rites liturgiques et la liturgie cosmique. Dieu a fait que la terre tourne d'ouest en est, de manière à ce que vous voyez le ciel, le soleil qui se lève d'est en est. Et évidemment, le cosmos étant conçu comme ayant son centre, à part Dieu, on se sommet Dieu, mais à son centre, c'est l'homme. Le cosmos a été créé pour être un signe pour l'homme. Je ne parle pas d'une manière scientifique, je parle d'une manière de croyant, évidemment. C'est voir la révélation divine. Et suivant cet ordre cosmique, on tourne autour de l'église. Et à chaque fois qu'on s'arrête, qu'on arrive devant la porte principale de l'église, la porte royale, à chaque fois, l'évêque et le clergé s'arrêtent. J'ai oublié de vous dire, évidemment, que la procession est avec la croix, des cierges, l'encensoir, l'évangélière. On dépose l'évangélière, il y a une lecture d'épître, une lecture d'évangile, et on repart, une petite acténie, et on repart en procession. Cette triple procession évoque aussi les processions, qui ont été plus que 3, puisque je crois que c'était 7, qui ont eu lieu à Jéricho avec Jésus, fils de Navé, appelé autrement Josué. Cette procession autour de Jéricho fait qu'au son de la trompe, au son des chants, et de la trompe liturgique, les murailles de Jéricho, sans qu'on ne livre bataille, sont tombées d'elles-mêmes. Ceci était la figure, dans l'Ancien Testament, de la chute du domaine du démon, si vous voulez, des enfers, en même temps, une préfiguration, une annonce, une prophétie de la fin des temps, lorsque tout le monde s'effondrera pour laisser place à la gloire de Dieu et à cette terre nouvelle et à ces cieux nouveaux. En plus, le cheminement triomphal, 3 fois autour de la nouvelle église, avec les reliques en avant, évoque, symbolise aussi l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Comment les rois étaient intronisé comme roi d'Israël, intronisé par une entrée triomphale dans le temple, il faisait le tour de l'autel, et c'était, je résume encore la cérémonie, mais c'était ça, l'intronisation. Et le Christ, quand il descend du mont des Oliviers, après être venu de Gethsémani, de Béthanie, et qu'il descend dans le temps de, il monte dans le temple de Jérusalem, après descendu par la vallée du Cédron, il remonte de l'autre côté, il entre triomphalement à Jérusalem, il était, et on le chante, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On le reconnaissait, les enfants des Hébreux, les fils des Hébreux, les fils de Jacob, le reconnaissaient comme roi d'Israël. Et c'est encore la même cérémonie, la même participation à laquelle on communie pendant cette triple procession autour de l'Église. Simplement, ce n'est pas avec le corps du Christ sous la forme du pain et du vin consacré, c'est avec la forme, si je puis dire, l'expression n'est pas tout à fait juste, mais avec la présence des reliques des saints martyrs qui sont les membres du corps du Christ, donc qui sont véritablement le Christ uni à l'homme dont on a encore la matière transfigurée sous la main. À la fin du troisième tour, quand l'évêque est devant les portes, il tient le discours comme ceci, n'est-ce pas? Et il dit une prière que je vous résume par deux versets simplement, deux phrases simplement. Nous qui célébrons l'inauguration de ce vénérable temple, symbole de ta très sainte Église, c'est-à-dire notre corps lui-même, que tu as dit appeler ton temple, les membres de ton Christ, par la voix de l'apôtre Paul. Vous voyez la correspondance, c'est un seul et unique mystère. Rends-le inébranlable, rends ce temple, donc à la fois le temple qu'on est en train de consacrer, mais puisque ce temple, c'est nous qui en sommes les membres, rends-le, c'est à lui, et il faut qu'il soit rendu inébranlable jusqu'à la fin des siècles. Et ceci est fondamental dans la cérémonie, dans le sens de la consécration d'une église. L'église est consacrée de manière à ce qu'elle devienne, qu'elle garde, qu'elle soit inébranlable jusqu'à la fin des temps. Une église consacrée ne peut jamais être déconsacrée. C'est une assurance humaine que ce qui était fondé à travers la main des hommes, à travers les architectes, mais fondé surtout par la présence de l'Esprit-Saint qui descend sur cette architecture aujourd'hui de la consécration, ceci est inébranlable pour les siècles, jusqu'à la fin des temps, en attendant le véritable temple qui est le royaume des cieux, lorsqu'il n'y aura plus besoin de temple terrestre. Donc, rends-le inébranlable jusqu'à la fin des siècles et couvre-le de ta gloire. Ceci est aussi important, couvre-le de ta gloire, de la même manière que la gloire de Dieu avait couvert le Christ au moment, sous la forme de colombe, au moment de la descente du baptême, de la même manière que la gloire de Dieu sous forme de nuée avait couvert, ombré le Christ sur le mont Tabor, de même aujourd'hui, nous demandons à l'Esprit Saint de se poser, d'illuminer, d'ombrer le temple pour qu'il soit inébranlable jusqu'à la fin des temps. Et rends-nous dignes, continue la prière, l'évêque dans sa prière, d'y offrir sans condamnation, avec conscience et pleine conscience, des louanges et des doxologies dignes de ta gloire. Ceci étant dit, l'évêque prend, ayant toujours en main les reliques sur le discos, frappe la porte de l'église, la porte royale, et dit, comme vous voyez faire pour le grand samedi avec la procession de l'évangile et de l'épitaphios, et dit trois fois: élevez vos portes, princes, car voici le roi de la gloire. une réponse à l'intérieur, qui est ce roi de la gloire? L'évêque répond, le Seigneur fort et puissant, c'est lui le roi de gloire, élevez-vous, portez le roi de gloire entrera. Trois fois, comme ça. Et vous voyez encore que ce rite nous associe à celui du samedi saint, c'est-à-dire à l'ouverture du tombeau du Christ au moment de sa résurrection. Donc c'était vraiment un office glorieux auquel on assiste. Et la dernière fois, il bute avec les reliques et les portes s'ouvrent et on entre triomphalement, l'évêque entre triomphalement et tout le monde à sa suite dans l'église. Et en entrant, chose remarquable, en entrant, l'évêque dit proclame, dit la prière que l'on dit pendant la petite entrée à chaque liturgie, on l'a encore dit ce matin, Maître Seigneur notre Dieu, toi qui as établi dans les cieux les hiérarchies et les armées des anges et des archanges pour le service de la gloire, fais que notre entrée soit accompagnée de celle de tes anges saints qui servent avec nous, et glorifient avec nous ta bonté. C'est une expression de la communion, de la concélébration qui est la nôtre à tous, qui entrons triomphalement et qui célébrons la gloire de Dieu en communion, en concélébration avec les anges. Et cette entrée-là ne se renouvellera pas pour la consécration, ne se révèle pas après pendant la liturgie, c'est déjà l'entrée de la petite entrée, si vous voulez, ce qu'on appelle la petite entrée dans la liturgie. Ensuite, si je puis dire, il y a une parenthèse dans le cours de la liturgie. On vient de faire l'entrée, après on va attendre pour avoir l'épître et l'évangile et la suite avec le trisagion, etc. Pendant cette parenthèse, l'évêque procède à la consécration proprement dite d'abord de l'autel et de l'église ensuite. Pour la consécration, l'autel est nu. Les reliques sont déposées sur un autel latéral et il n'y a que la pierre d'autel, il n'y a rien. Dessus, il y a un maillet, des spatules, des outils, quoi. Une fiole, une aiguière avec de l'eau, je vous dis tout. Ah si, il y a encore trois savons. L'évêque trace une croix sur chacun des savons, toujours au nom de la Sainte Trinité, et dépose les trois savons sur le. Pendant que le diacre dit, soyons attentifs, tout le monde qui chante, prions le Seigneur, et on chante trois fois Alléluia, solennellement, l'évêque prend l'aiguière et en forme de croix, verse trois fois de l'eau sur l'autel. Après quoi, l'évêque prend les trois savons, tantôt l'un, tantôt l'autre, ou s'il a des concélébrants, ce qui est le cas dans les deux cas, dans les deux fois où on a vu, il se partage les savons, il se les passe de main en main, et on savonne l'autel. Ça mousse. On savonne l'autel, les côtés, et on savonne aussi les pieds de l'autel, le socle de l'autel. Ça dure un bon moment. Et puis, l'autel est essuyé avec des serviettes, avec je crois que je me suis trompé dans l'ordre de. Je suis pas évêque, alors j'ai pas l'habitude de les cébrer. Hein. Votre m'en vouloir. Je crois qu'avant de l'avoir nettoyé, avant de l'avoir nettoyé, il faut que vous sachiez qu'au milieu de l'autel, j'efface tout ce que je viens de dire, au milieu de l'autel, il y a un trou, une cavité qui est grande, cubique, qui est grande un petit peu comme une des boîtes à sucre que vous avez devant vous. Un peu plus petite, mais carrée, si vous voulez. Dans cette cavité, l'évêque dépose les noms de tous les fondateurs, de tous les donateurs de l'Église. Écrit sur un petit papier, j'imagine que ça va être un tout écrit petit, parce qu'il dit qu'il y en a généralement beaucoup. Il faut que tout puisse rentrer. Il met du. Comment on appelle Il met un mélange de cire. J'oublie le nom, mais ça va me revenir tout à l'heure. Il met un mélange de cire à cacheter fondue d'aloès et de Saint-Miron. C'est un mélange qui est fait. Et il en met dans le fond de la cavité dont je vous parle, met les papiers avec les noms dessus, coule encore de la cire. Du séromastique, ça s'appelle. Donc ce mélange de cire à cacheter, d'aloès et de myrrhe. Et il en remet encore un petit peu par-dessus. C'est fondu, donc c'est quasi liquide. Et après, dépose le reliquaire. Dans le reliquaire, si je ne m'abuse, il a encore versé de cette cire, de séromastique, autour des reliques, pour qu'elles adhèrent bien au reliquaire. Il ferme le reliquaire, le dépose dans la cavité, dans le baril, appuie dessus pour que ça colle bien en dessous, et remplit toute la cavité avec du séromastique. Toute la cavité, il en va... 4 tasses comme ça, si vous voulez. Et après quoi, quand c'est arrivé juste au bon, un bon niveau, on met un couvercle, c'est-à-dire une plaque de marbre, si l'autel est en marbre, une plaque de marbre de la surface de l'ouverture du trou, et le sel comme ça. Et encore, dans le joint, dans les 4 joints, il reverse du séromastique très liquide, de manière à ce que ça coule bien. C'est indécelable. Et on attend que ça sèche, que ça refroidisse plus ou moins. Et quand c'est refroidi, on prend le maillet, sert à enfoncer la plaque s'il y a besoin. Et avec les spatules, on gratte le trop-plein de cire rafraîchie, durcie, solidifiée à ce moment-là, et on le prend et on le donne en bénédiction. Nous, on n'en a pas eu, mais on en a eu d'autres fois. Et c'est après cela que l'on prend les savons, que l'on savonne bien, je ne vous décris pas la cérémonie, vous l'avez déjà eu une fois. On l'essuie avec des serviettes de lin, et après, avec l'exclamation toujours du diacre, soyons attentifs, prions le Seigneur, auquel on répond Alléluia. Pendant ce temps-là, l'évêque a pris le saint myrrhe, le myrrhe de la chrismation, si vous voulez, et en forme de croix, fait 3 onctions comme ça sur l'autel, et avec les mains, étale le saint myrrhe sur toute la table d'autel, sur les tranches, sur les pieds, le socle de l'autel, et même s'il y a un baldaquin, sur les colonnes du baldaquin. Après quoi, quand il est bien aspergé comme ça, et je vous assure qu'il y a servicelle, on prend des antimensiones, et des antimensias, si on veut être... Par les causes et bien, on prend les antimensias et on essuie, avec les antimensias, on essuie l'autel. Les antimensias, ce sont des linges qui font 50 à peu près, 50 cm au carré, 40 cm au carré, sur lesquels sont inscrites sont peints la scène de la résurrection du Christ dans le tombeau. Souvent la croix est derrière, souvent il y a des gens sur le côté. Il y a les quatre évangélistes avec leur symbole dans la vision d'Ézéchiel sur les côtés, et des inscriptions qui sont toujours en grec ou en russe. Je ne peux pas vous dire ce qui est écrit dessus. Et une place en bas où l'évêque consécrateur devra signer. À quelle occasion l'antimension a été consacrée, la date de consécration et qui l'a consacrée. Et ces antimensions-là sont distribuées à ceux qui en ont besoin, de manière à pouvoir célébrer les liturgies sur cet autel portatif. On en a forcément dans notre. Et c'est ce qui est utilisé, considéré comme le linceul du Christ, en quelque sorte, sur lequel on peut consacrer les dons. Et il y a certainement une correspondance entre les antimensions et le fameux linceul de Turin que vous connaissez. Voilà pour la description du nettoyage et de la consécration d'autel. Il n'est pas fini. Après l'avoir ainsi nettoyé, loin, l'évêque pose une première nappe en lin blanc sur l'autel, avec à chaque angle du linge. Le linge est nettement plus grand que l'autel. Il y a des cordons. Et les cordons sont attachés rituellement sous l'autel en forme de croix. Les cordons, évidemment, ce linge-là évoque évidemment le linceul dans lequel le Christ a été enseveli, qui est sur l'autel. C'est évidemment un ensevelissement du Christ sur l'autel auquel on assiste. Et accessoirement, l'évêque signe encore, met son nom, la date et le lieu sur la nappe, et la nappe doit rester sur l'autel jusqu'à la fin des temps aussi. On l'enlève jamais. J'ai oublié de vous dire, avant de poser cette nappe-là, avec le séromastique, l'évêque fait couler quatre angles de l'autel, il fait couler un peu de séromastique et applique dessus des petits morceaux de tissu à peu près grands comme ça, sur lesquels sont peints encore, sont les effigies des quatre évangélistes, et sont mis aux quatre coins, collés définitivement aussi, donc sous la nappe. Et le fait de coller ces quatre évangéliste sur la table est une reprise, une évocation de l'autel de l'Ancien Testament dans le temple de Salomon, où il y avait des cornes d'animal qui évoquaient la puissance divine. Et vous en avez une expression dans les psaumes, quand on dit qu'il montera jusqu'aux cornes de l'autel. C'est encore ces cornes que vous voyez sur des sarcophages romains ou sur des autels anciens, où vous voyez des saillies en pierre. Et c'est ces cornes-là, on les appelle toujours des cornes, d'ailleurs, même si ça n'a plus la forme de cornes, que le prêtre ou le diacre ou le prêtre embrasse rituellement quand il est consacré diacre ou prêtre, et fait le tour de l'autel et embrasse par trois fois, en faisant trois tours, les cornes de l'autel. Après, donc, on met la nappe en lin avec les cordons, et après quoi, on peut mettre par-dessus une nappe d'apparat, une nappe de couleur, belle, que l'on peut changer, en fonction des couleurs liturgiques, en fonction des besoins. Voilà. Voilà la description de la consécration de l'autel. Mais sa signification maintenant. L'autel nettoyé évoque son nettoyage, son essuyage, son embaumement, évoque l'épouse qui est préparée, le bain nuptial de l'épouse qui est préparé pour l'époux. C'est une évocation aussi de ce que nous lisons, de ce que vous lisez dans le Cantique des Cantiques, où l'époux, le Christ, recherche l'épouse, l'Église, c'est-à-dire l'humanité, et l'épouse recherche aussi l'époux. Ils se cherchent mutuellement. Et quand ils sont trouvés, il y a la préparation de la préparation de la de l'épouse pour l'union nuptiale, préparation qui aboutit dans l'Ancien Testament à la mère de Dieu, parée de couleurs variées, prophétise les Saintes Écritures, qui est préparée, qui offre toute l'humanité en union au Christ. Les aromates qui sont utilisés, l'aloès, la myrrhe, le saint-myrrhe, le saint-myrrhe est fait de 256 plantes différentes, je crois. Ces aromates-là évoquent bien évidemment, symbolisent bien évidemment les aromates qui ont été apportés par Joseph et Nicodème pour ensevelir le Christ et par les saintes femmes myrrhophores. Je vous dis que l'autel ou l'église, ne regardez pas, c'est masculin ou féminin, en français ça ne marche pas évidemment, mais l'autel et l'épouse, l'église et l'épouse qui est préparée pour les noces, rappelez-vous ou évoquez la ruse d'Abraham. Abraham est chez Abimélech, le roi Abimélech. Et pour se faire bien voir par le roi, dit à son épouse Sarah, fais-toi passer pour ma sœur. Du coup, Abimélech veut épouser Sarah. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il révèle à Abimélech, il empêche Abimélech de s'unir avec Sarah. Et fait des reproches à Abraham en disant, Tu m'as trompé, pourquoi as-tu fait ça? Et Abraham trouve une explication. Mais il dit, c'est là où je veux en venir, il dit au sujet de son épouse, il dit, elle est vraiment ma sœur. Transposé dans notre cas, que le Christ reconnaît l'Église comme sa propre sœur. Elle est la fille de notre père, elle est la fille de mon père, dit encore Abraham. Effectivement, l'Église est fille de Dieu, comme vous le savez par notre théologie et notre foi. Mais pas celle de ma mère, ajoute Abraham. Et effectivement, l'autel, l'Église, n'est pas fille de ce monde. Elle n'est pas fille de la mère humaine, de la chair du Christ. Elle a son père dans le ciel, mais elle n'a pas de mère sur terre. Elle est devenue mon épouse, ajoute encore Abraham. C'est-à-dire que le Christ se l'approprie, s'approprie notre nature et nous unit à elle. L'Église avec un grand E ou l'Église avec un petit E qui est le symbole de la grande Église et l'épouse même du Christ. Quand l'autel a été ainsi consacré, que les reliques ont été ainsi scellées définitivement, éternellement dans l'autel, l'évêque auquel on met un coussin sous le polyéléos fait une grande prière qui est une véritable anaphore, une prière de consécration que je résume, mais je suis obligé de prendre beaucoup de ces phrases-là, sinon ça n'a plus de sens. Ô Dieu, toi qui es sans commencement, toi qui du néant as amené toute créature à l'existence. Vous voyez que la consécration est une nouvelle création. d'un matériau, d'un autel fait avec de la pierre, on en fait le trône de gloire de Dieu. La matière elle-même est transfigurée, elle devient porteuse, elle devient, elle signifie, elle porte en elle-même la présence divine. Toi qui habitas une lumière inaccessible, qui a pour trône le ciel et la terre pour escabeau de tes pieds. Toi qui as donné à Moïse les ordres et un modèle, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'Ancien Testament, et à Bezaleel, a accordé, Bezaleel c'était l'architecte qui a conçu sur les ordres de Moïse, donc de Dieu, l'arche d'alliance et la tente du témoignage. Toi qui as accordé la sagesse, toi qui as rendu capable de construire l'arche d'alliance en laquelle étaient les ordonnances du culte et les icônes et les préfigurations de la future réalité. Dans l'Ancien Testament, c'était les figures, maintenant c'est la réalité. Toi qui as accordé à Salomon profondeur et grandeur d'âme et qui par lui a élevé le temple ancien, celui de Jérusalem, et qui par tes saints et glorieux apôtres a renouvelé le Christ en esprit et la grâce du tabernacle véritable. C'est-à-dire que les apôtres ont fait passer d'un temple à un autre, du temple d'Ancien Testament qui était simplement une figure, au temple nouveau qui est le Christ et qu'ils nous transmettent par leur évangile et leur prédication. Toi qui as établi sur toute la terre les saints, ça je vous l'ai déjà dit, rends-nous capables par ta grâce et la venue de ton Esprit Saint vivificateur. Vous voyez, c'est une épiclèse, on implore l'Esprit Saint de descendre comme on le fait sur les saints dons pendant la liturgie. De célébrer sans aucun de condamnation la dédicace de ce temple et de son consacrer l'autel qui est dressé afin que nous puissions t'y bénir par nos psaumes, nos hymnes, nos rites sacrés et magnifier en tout temps ta miséricorde. Envoie ton Esprit Saint et sanctifie cette maison. Remplis-la de la lumière éternelle, choisis-la pour ton habitation, faisant un tabernacle de ta gloire, par là de tes grâces divines et supraterrestres, faisant le port de ceux qui sont ballottés par la tempête, le refuge des infirmes, l'épouvante des démons. Garde ce temple inébranlable jusqu'à la fin des siècles et fais de cet autel un saint des saints par la puissance et la vertu de ton Esprit Saint. Cette prière-là est une prière consécratoire, une prière semblable à celle de l'anaphore que vous entendez à la liturgie, et une prière semblable à la consécration de l'eau du Jourdain le 6 janvier pour la théophanie. C'est véritablement une descente de l'Esprit Saint qui a lieu sous nos yeux. L'Église, l'autel d'abord, et l'Église est chrismée, baptisée par son nettoyage, chrismée par les onctions, de manière à ce qu'on puisse y célébrer la descente de l'Esprit Saint qui transformera plus tard le pain et le vin en corps et sang du Christ. L'Église est chrismée parce que l'architecture elle-même est comme une icône, elle est transfiguration de la matière par les énergies divines transmises par l'Esprit Saint. Une fois que ceci a été fait, l'évêque, avec un long bâton, avec une perche, met un pinceau en bout et plonge le pinceau dans un récipient dans lequel on a mis du Saint Miron, toujours le Miron de la crispation, et au-dessus du sanctuaire, dans l'abside de l'église, peint avec le Saint Miron, consacre avec le Saint Miron les murs de l'église en faisant le signe du monogramme du Christ, c'est-à-dire le qui de Christ et le ro de Christos. Ou la croix éventuellement. Il fait ça sur l'abside à l'est, au-dessus des portes d'entrée à l'ouest, puis au sud, puis au nord, en forme de croix. Et puis après, normalement, il le fait sur tous les chapiteaux des colonnes de l'Église. Là, je ne sais pas si c'était fait sur des chapiteaux, je ne l'ai pas vu faire. Oui. Là où j'étais, je ne pouvais pas voir. C'était fait. Et une fois ceci fait, on amène, quand l'évêque revient à l'hôtel, on lui amène une lampade, un plateau sur lequel il y a une lampade, un flacon d'huile et une mèche.
Qu'est-ce que c'est la lampade ?
Une lampe à huile. Et il prend de l'huile, verse lui-même l'huile dans la lampade, met une mèche et allume la lampade. Et cette lampade-là sera mise définitivement, éternellement sur l'autel ou sur les baldaquins, le baldaquin et au-dessus de l'autel, ce qui paraît. Après quoi, on peut amener d'autres lampes. On demande à des servants, à des diacres, généralement on demande aux personnes qui sont hautes de taille parce qu'elles ne sont pas obligées de monter sur un escabeau pour aller mettre les lampades en place. Et on remplit d'huile toutes les lampes, on les allume toutes et on les allume normalement à partir du feu qui a été allumé par l'évêque. Voilà, j'ai presque terminé. Et puis voilà, une fois que les lampes sont mises, petit à petit, alors commence la liturgie, suit la liturgie avec lecture d'épîtres, lecture d'évangiles, le trisagion Saint Dieu Saint Fort qui a été dit avant, n'est-ce pas ? Enfin, c'est la liturgie pontificale normale, liturgie pontificale que je ne vous décris pas aujourd'hui pour ne pas alourdir encore cette description, mais où l'évêque où le rite même montre que l'évêque est comme Moïse qui descend illuminé du Sinaï et transmet au peuple qui en est témoin, transmet la gloire de Dieu et transmet ce qu'il a vu et ce à quoi il a participé, c'est-à-dire qu'il a vu d'une part la Trinité en ayant un cierge, trois branches, et de l'autre côté il a vu l'incarnation déjà. Il a vu le Christ qui est à la fois Dieu et à la fois homme, voilà la raison pour laquelle il a un cierge dans l'autre main qui a deux branches. J'insiste pas là-dessus. Mais une fois que tout ça a été fait, vraiment, on peut amener petit à petit, pendant toute la liturgie, on amène les ustensiles nécessaires à la liturgie, on amène même les sièges, on amène on commence à remplir l'église avec tout ce qui va y être utilisé et suit la liturgie tout à fait normal, sans autre cérémonie, c'est déjà suffisant comme ça.
Et actuellement, il y avait tout autour, je ne sais pas si vous l'avez vu, tout autour de l'église, au-dessus de la porte royale, il y avait un grand linge comme ça.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait sur ce...
Une espèce de grand drapeau, hein, qui scellait. C'est un rite local, ça.
Ils l'ont coupé au moment de la consécration.
C'est comme les sceaux. Les sceaux qui sont au-dessus qui ferment les portes du Saint Tombeau à Jérusalem et qui sont ouverts, qui sont décellés au moment de la résurrection du Christ. Et à ce moment-là, le ruban en question est coupé par petits segments et donné à tout le monde.